Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Anne-Laure Blin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez été élue en 2020 à l'issue d'une élection législative partielle. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre parcours personnel et politique ?
Eh bien, écoutez, moi effectivement, j'ai été élue en septembre 2020, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Moi, je suis engagée en politique depuis plusieurs années, hein, puisqu'en étant étudiante, j'étais déjà fortement investie à l'université. Ma première campagne a été la campagne présidentielle pour Jacques Chirac en 2002. Et puis c'est vrai que petit à petit, je me suis engagée. Je ne m'étais pas pour autant présentée à une élection. Et puis le député qui était précédemment élu et qui avec qui j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années a été obligé et contraint de renoncer à son mandat en raison de la loi sur le non-cumul, puisqu'il est redevenu maire en mars 2020. Et donc voilà, il m'a proposé de lui succéder. Donc je me suis lancée dans cette belle campagne des élections législatives. Et puis j'ai été élue donc en septembre. Et puis mon premier mandat effectivement de députée a commencé depuis plus d'un an.
Alors on va parler de l'actualité, Anne-Laure Blin. Le pass vaccinal a été adopté en première lecture par les députés avant de passer au Sénat. Valérie Pécresse, la candidate de la droite et du centre, s'est déclarée pour ce pass vaccinal. Pourquoi avoir voté contre comme d'autres élus les Républicains ?
Bah, écoutez, oui, effectivement, on a débattu pendant de longues heures en début de semaine de cette question du pass vaccinal. Moi, depuis le début hein, de la gestion de cette crise sanitaire, que j'ai donc, en tant que députée, pris en cours de route, j'ai dénoncé la mauvaise gestion du gouvernement, parce qu'on voit bien qu'à plusieurs reprises, ils nous ont un petit peu, je dirais, menti sur les modalités de gestion. Et puis, c'est vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les différentes décisions sont prises à l'emporte-pièce, sans véritable perspective. Et donc, au final, les Français sont un peu perdus face à l'incohérence des mesures. Donc, c'est vrai que depuis le début, je me suis investie sur les différents textes qui nous ont été présentés au débat. Et malheureusement, petit à petit, à chaque fois, ils avancent en crantant toujours un petit peu plus et en réduisant les libertés. Et je crois et je dois dire que le pass vaccinal est l'apothéose finalement de cette mauvaise gestion, puisque après avoir proposé le pass sanitaire pour effectivement hein, inciter à la vaccination, mais qui concrètement sur le terrain n'a aucune influence du point de vue de la gestion de l'épidémie et du point de vue des contaminations, ils viennent désormais nous proposer de voter le pass vaccinal, qui est donc la mise en place d'une gestion sanitaire uniquement basée sur le vaccin. Alors si le vaccin a le mérite de réduire effectivement pour un certain public, notamment les personnes âgées, notamment les personnes à comorbidité, de réduire les formes graves, pour un certain nombre de personnes de la population, il n'y a pas de risque très élevé. Et donc finalement, on voit bien que même si on vaccine toute une population à hauteur aujourd'hui de plus de 90%, on voit bien que les contaminations ne sont pas réduites, puisque sur beaucoup de territoires, notamment le mien de Maine-et-Loire, on reprend des mesures de port de masque, de jauge, de réduction d'accès à tel ou tel site. Et donc en vérité, la politique vaccinale, le tout vaccinal ne fonctionne pas. Donc il faut choisir d'autres modalités de gestion, et malheureusement aujourd'hui, le gouvernement ne nous en propose pas d'autres. C'est la raison pour laquelle, après avoir posé de multiples questions, de nous avoir finalement mené un petit peu en bateau, j'ai décidé de voter contre.
Et si le Sénat modifie le texte, vous pourriez réétudier votre vote en deuxième lecture ?
C'est un certain nombre de propositions que nous avons faites durant le débat. Le Sénat en reprendra très certainement plusieurs. On verra quelle position le gouvernement adopte par rapport à l'examen et le travail qu'aura fait le Sénat. À ce moment-là, vous pourrez me réinviter, mais je pourrai vous répondre. Mais là, c'est une simple hypothèse et je ne peux pas vous, vous dire ce qui pourra se passer dans les jours à venir.
Anne-Laure Blin, vous aviez déposé un amendement pour garantir l'accès aux lieux d'exercice de la démocratie. Amendement rejeté, on est à 3 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet amendement ?
J'ai déposé un amendement comme d'autres, hein. J'en ai déposé plus d'une trentaine, hein. Donc j'ai participé vraiment à essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, je dirais, dans ce débat. Notamment l'un d'entre eux était de vraiment graver dans le marbre de la loi le fait que les lieux d'exercice de la démocratie ne pourraient jamais être restreints à une condition sanitaire, et notamment à un pass sanitaire ou à un pass vaccinal. Parce que mon amendement, finalement, a trouvé encore plus d'écho et plus d'actualité après les déclarations du président de la République, qui disait que les non-vaccinés étaient des irresponsables et donc plus des citoyens. Qui dit non-citoyen dit non-droit civil ou et pas de droit civique, donc pas de possibilité d'exprimer son choix dans les urnes. Et donc j'avoue que cette phrase m'a véritablement interpellée, comme d'ailleurs elle a interpellé beaucoup de Français. Et donc c'est pour ça que j'ai tenu à le défendre dans l'hémicycle. Malheureusement, voilà, comme à peu près toutes les propositions, toutes les questions que nous pourrons poser, nous n'avons pas eu de réponse, et la majorité a rejeté d'un seul bloc le fait de le graver dans la marbre, et je trouve ça regrettable parce que ça aurait rassuré les Français sur la volonté précise de l'exécutif. Et c'est vrai qu'au lendemain des déclarations du président de la République qui dit que les lois sanitaires ne sont là que pour emmerder les non-vaccinés et donc les Français, ça interroge.
Alors le nombre de personnes positives au Covid augmente depuis plusieurs jours et on voit les Français faire la queue devant les centres de dépistage. Le protocole sanitaire semble très complexe à l'école. Vous comprenez le ras-le-bol des syndicats d'enseignants qui lancent un mouvement de grève jeudi ?
Moi je comprends le ras-le-bol des Français. On leur a dit, vaccinez-vous, le retour à la normale sera assuré. On aura une immunité collective à partir de 70% de vaccinés. Aujourd'hui, on a plus de 90% et on ne retrouve absolument pas une vie normale. Donc je comprends que les Français, quand on leur raconte n'importe quoi, tout et son contraire, qu'on propose des mesures qui sont totalement incohérentes. Par exemple, on s'est battu cette semaine dans l'hémicycle parce que imposer des passes vaccinaux et des passes sanitaires aux enfants qui sont dans des activités extrascolaires, alors même que ce n'est pas exigé à l'école, qu'ils peuvent par exemple faire du foot à 10h du matin parce qu'ils sont à l'école dans un stade de foot dans lequel ce n'est pas exigé, mais faire du foot le soir même à 18h dans le même stade dans le cadre d'une activité extrascolaire et devoir l'exiger, c'est complètement incongru et complètement incohérent. Donc aujourd'hui, les Français sont totalement perdus. Ils ne savent même plus quand arrive à échéance leur passe, quand est-ce qu'il faut qu'ils renouvellent leur dose. On parle de la troisième dose, de la quatrième dose. Voilà, c'est complètement incompréhensible, et donc il y a un ras-le-bol généralisé parce que il n'y a pas de ligne de conduite, il n'y a pas de perspective, même si j'entends bien que on peut évoluer par rapport au virus, mais on voit bien que les variants se renouvellent à chaque fois. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne à vivre avec, qu'on mette toutes les chances de nos côtés en garantissant le respect des gestes barrières, que je crois tous les Français ont bien compris, mais qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on retrouve une vie normale, et qu'effectivement à l'école, il faut qu'on permette d'avoir une sécurité pour nos enfants, mais pour autant qu'on poursuive notre vie quotidienne et qu'on puisse retrouver notre vie d'avant, en tout cas, je l'espère, le plus rapidement possible.
Alors, vous êtes députée depuis plus d'un an. J'imagine que vous serez candidate à votre réélection aux prochaines législatives. Pouvez-vous nous parler de votre bilan ? Sur quel thème vous êtes-vous particulièrement investie, Anne-Laure Blin ?
Alors moi j'ai le bilan d'une année de mandat, hein, puisque vous l'avez redit, hein, je suis élue depuis très peu de temps. Pour autant, moi j'ai tout de suite pris mon mandat dans le vif du sujet, je dirais, puisque dès la première semaine de mon élection, je suis intervenue à l'Assemblée nationale en commission des affaires économiques, notamment sur des questions de chasse, d'environnement, de biodiversité, de maltraitance animale. J'ai d'ailleurs rejoint cette commission au lendemain de mon élection. Principalement, il y a deux choses. Il y a à la fois le fait que tout tient de l'économie. et qu'il faut absolument que l'on accompagne notre économie, nos chefs d'entreprise. Et donc, j'ai œuvré au quotidien, à la fois à l'Assemblée, à la fois sur le terrain, pour que les entreprises soient accompagnées et soient finalement en mesure de faire ce pourquoi elles ont créé leur entreprise et d'exercer leur activité le plus facilement possible. Et il en est d'ailleurs de même dans les démarches des citoyens, parce que je crois que c'est aussi fondamental que les citoyens puissent faire des démarches administratives le plus simplement du monde, et Dieu sait que c'est quand même aujourd'hui parfois très compliqué. Donc voilà, la première mission que je me suis incombée et que j'ai mis en œuvre, c'est de faciliter la vie des entreprises, la vie des citoyens, et puis effectivement de prendre une part active à la gestion de la crise en participant au débat, en apportant ma pierre à l'édifice. Et troisièmement, un sujet aussi qui me tient à cœur, c'est les conditions de vie des étudiants. J'ai eu l'honneur de me voir confier la responsabilité par mon groupe politique de débattre d'un texte autour de la vie étudiante et de la restauration étudiante, et je crois que ça fait partie d'un des sujets qui a été marquant aussi durant cette année de mandat, parce que voilà, j'ai proposer des modalités de restauration pour les étudiants qui soient un peu plus souples, parce qu'aujourd'hui un certain nombre d'entre eux sont exclus du système de restauration universitaire. Il y a donc principalement des injustices, et moi je tiens absolument à ce qu'on les corrige. Donc même si la majorité ne l'a pas vu de ce même œil, je continuerai encore mon combat sur cette question, parce que je crois que c'est fondamental, parce que notre jeunesse est notre avenir, et que si on ne met pas les moyens pour notre jeunesse, eh ben on se prépare à un mauvais avenir, et donc c'est absolument pas ce que je veux, raison pour laquelle je m'investirai pour les jeunes encore demain, dans le cas où mon mandat se poursuivrait.
Anne-Laure Blin, vous êtes également présidente de la mission d'information sur les métiers d'excellence et les métiers d'art à l'Assemblée nationale. C'est un sujet qu'on aborde peu. Ces métiers qui demandent des compétences particulières doivent être davantage soutenus.
Bah, effectivement, vous le dites, ce sont des métiers qui sont rares, qui sont très peu sous les projecteurs médiatiques, et qui pour autant sont vraiment des métiers authentiques.
On peut donner des exemples de ces métiers d'art ?
Ce sont par exemple des forgerons, des verriers,
des tailleurs de pierre.
Des tailleurs de pierre, vous en avez un certain nombre. En tout cas, ce sont des artisans. Voilà, qui ont créé leur entreprise, qui exercent leur activité souvent seuls, parfois avec des salariés, mais très souvent seuls, et qui sont vraiment détenteurs de la richesse patrimoniale et du savoir-faire, d'un savoir-faire artisanal qui date de parfois plusieurs millénaires et qui font la fierté de notre patrimoine. Et j'ai eu cette chance d'être désignée par mes collègues à l'Assemblée comme présidente de cette mission d'information. Donc avec d'autres collègues qui en font partie, j'ai auditionné un certain nombre d'acteurs, mais aussi j'ai fait beaucoup de visites de terrain. Encore ce matin, j'étais dans une forge, dans un village de ma circonscription, à la Pèlerine, où voilà, les salariés, le chef d'entreprise m'expliquaient leur quotidien, m'ont montré leurs outils, des outils qui sont encore une fois très anciens et qui pour autant tout à fait d'actualité, et qui sont précieux pour nous, parce que ce savoir-faire français, seul nous, notre nation le détient, et il faut qu'on puisse le transmettre, qu'on puisse assurer à de nouvelles générations d'avoir cette même formation dans une authenticité et une sincérité de ces savoir-faire d'antan. Et c'est vraiment très important, parce que même si on en parle très peu, ils sont vraiment une richesse économique pour nous.
Alors, lors de votre élection, l'abstention a été très forte, ce qui est habituel lors d'une élection partielle, mais l'abstention est forte également lors de tous les scrutins de ces dernières années. De nombreux Français ne savent pas pour qui ils voteront à l'élection présidentielle. Comment expliquez-vous qu'à 3 mois de cette élection majeure, des électeurs soient aussi démotivés et aussi peu mobilisés ?
Bah, écoute, on verra dans quelle proportion, dans quelle mesure ils sont mobilisés, ils seront mobilisés lors des prochains scrutins. Mais pour répondre à votre question autour de l'abstention, je crois qu'effectivement, on peut pas le nier, il y a une vraie crise de confiance entre les Français et les politiques, les Français et leurs représentants. Et moi, c'est aussi ce qui fonde, je dis pas que l'abstention a fondé mon seul engagement politique, mais c'est aussi ce qui m'a poussé à m'engager depuis de longues années en politique, parce que je crois que la politique est dans tout, et dans tous nos choix, dans notre quotidien, et donc il faut absolument que les Français s'y intéressent. Et pour s'y intéresser, il faut se montrer proche d'eux. Et dans l'exercice de mon mandat, c'est vraiment ce que je me suis attachée à faire. Je fais des permanences dans tous les villages de mon territoire, dans tous les villages de ma circonscription, parce que je crois que les Français ont besoin qu'on vienne à eux et qu'on discute avec eux. Ils ont besoin qu'on les écoute et qu'on les entende. Et dans mes interventions à l'Assemblée nationale, vraiment, nombreuses sont les fois où je me suis inspirée de tout ce qui m'a été dit sur le terrain, des gens que j'ai pu rencontrer, des chefs d'entreprise, des salariés, du personnel médical. Je me suis inspirée toujours de ce qu'ils me disent pour porter leur voix au sein de l'hémicycle devant les ministres, parce que c'est ça le plus important. C'est qu'on arrive à faire bouger notre pays, à faire bouger les législations par rapport à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et parce que le terrain, c'est la vraie vie. Et les gens du quotidien, les gens de nos territoires ont besoin que leurs parlementaires, que leurs ministres, que leur président de la République portent cette voix, parce que c'est leur vie de tous les jours. Et donc, je crois que la meilleure chose qui pourrait être faite contre l'abstention, c'est cette belle implication que d'ailleurs Valérie Pécresse a complètement compris, puisque c'est pour ça qu'elle se rend encore hier. Elle était dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en terre de Cavaillon. Elle va à la rencontre des Français. C'est cette proximité qu'ils attendent et que je crois qu'il faut que les politiques comprennent.
Et quels sont pour vous les enjeux de l'élection présidentielle, notamment pour les habitants des 80 communes de votre circonscription ?
Les enjeux de notre territoire aujourd'hui, c'est que nous ne soyons pas des citoyens de seconde zone. C'est que nous vivons à la campagne, nous aimons notre vie, nous avons un confort de vie que nul ne remplacerait. Mais pour autant, il faut que nous soyons au cœur des décisions, que nous ne soyons pas toujours la 50e roue du carrosse. En ce sens que, par exemple, lorsque l'on parle de connexion et de 5G, que nous, enfin, nous obtenions la 3G dans nos villages, que nous ayons une connexion internet mobile convenable, comme en plein cœur de Paris, que nous ayons des centres de décision qui soient au plus proche de nous et qu'on ne nous oublie pas, que nous ne soyons pas des territoires où on met des choses que l'on ne souhaiterait pas dans les métropoles parce qu'on ne les veut pas et que nous pourrions les accueillir. Nous voulons vraiment avoir l'impression, et moi je souhaite œuvrer dans ce sens, que la vie à la campagne, la ruralité, les habitants, les services de proximité pour eux sont renforcés parce que nous vivons, nous apportons aussi notre pierre à l'édifice et les Français de mon territoire apporte aussi beaucoup à la vie économique de notre pays, se sentent compris et pris en compte dans les politiques qui sont mises en place.
Merci Anne-Laure Blin. Je rappelle que vous êtes députée Les Républicains du Maine-et-Loire. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.